Chapitre 27. Pendant plus de 2 mois, Roger n'alla à Paris qu'une seule fois par semaine, le dimanche. Bien avant que Raphaël ne fût levé, il quittait Saint-Prix et se rendait à Hermont, où il montait en chemin de fer. Arrivé à Paris, il commençait par passer chez lui, où Bernard lui remettait les lettres arrivées depuis 8 jours. Puis il gagnait la rive gauche, entrait à l'église Sainte-Clotilde et tâchait de se placer à une certaine distance des prie-dieu occupés par Christine et la gouvernante de celle-ci, de façon à rencontrer les yeux de sa cousine lorsqu'elle les levait. Si cela lui était impossible, il s'arrangeait au moins pour se trouver sur le passage de Christine à la sortie. Ils échangeaient un regard rapide, mais intense comme un éclair, et aussitôt, il s'en revenait à Saint-Prix sans que Raphaël, une seule fois, lui demandât pourquoi il allait à Paris régulièrement tous les dimanches, à la même heure, ce dont il lui savait grand gré, car il eût été fort gêné pour répondre, ayant horreur de mentir, et, d'autre part, ne pouvant pas parler de sa cousine à sa maîtresse. Si Raphaël ne s'inquiétait pas de savoir ce que Roger allait faire à Paris on se demandait où était et ce que faisait le duc de Naurouze, qu'on ne voyait plus nulle part et qui avait disparu sans prévenir personne. Il y avait à ce moment un journal qui affichait la prétention, pleinement justifiée d'ailleurs, d'être lu par le High Life parisien et dont le chroniqueur en vedette prenait plaisir à dire à son public les vérités les plus dures. Dans un de ses articles, ce chroniqueur, qui apprenait les bruits du monde par les échos de théâtre, s'occupa de la disparition du duc de Naurouze. « Ils sont là quelques gentilshommes dont toute la gloire consiste à abattre 8 au baccarat ou à sauter la banquette irlandaise beaucoup plus témérairement mais aussi beaucoup moins habilement qu'un jockey de profession. Dans ce monde, pour lequel je professe une admiration que je n'hésite pas à qualifier de phénoménale, il vient de se faire un vide qui m'inquiète. Il paraît que nous allons manquer de gentilshommes. » Après cet article, cette disparition était devenue un événement non seulement parisien, mais même provincial et universel. Le public est si bon enfant pour avaler tout ce qu'on lui montre avec un morceau de drap rouge dessus, qu'il y avait de braves gens de Tarbes comme de Douai, qui se demandait avec curiosité ce qu'était devenu ce gentilhomme qu'il n'avait jamais vu, mais qu'il savait parfaitement être le duc de Naurouze. Il y eut même des jeunes filles sentimentales autant qu'ambitieuses qui le pleurèrent, ayant depuis longtemps caressé leur rêve de se faire épouser par lui, rêve longuement et amoureusement poursuivi le soir en croquant du sucre dans leur lit ou le matin en cirant les souliers du père et des frères. Cette disparition eût pu se prolonger ainsi longtemps encore, peut-être même jusqu'à la saison où les Parisiens envahissent la campagne, si une lettre de Savine, que Roger trouva chez lui un dimanche, ne l'avait fait rentrer dans la vie parisienne. « Mon cher Roger, je me suis présenté chez vous aujourd'hui samedi. On me dit que vous viendrez sûrement à Paris demain matin. Voulez-vous me faire l'amitié de passer chez moi? Je vous attendrai toute la matinée. Je suis menacé d'un duel avec le duc d'Arcala et je veux vous demander d'être mon témoin. C'est un service que vous ne refuserez pas à votre ami Vladimir. » Le premier mouvement de Roger fut de se dire que Savine aurait bien pu s'adresser à un autre. Mais le service qu'on lui demandait n'étant point de ceux qui se peuvent refuser, il se rendit chez le prince aussitôt la messe finie. Il n'était pas ordinairement très expansif, le prince Savine. Ni affable, raide au contraire, gonflé, glorieux, important, toujours préoccupé de rappeler à ceux qu'il abordait qui il était, ce qu'on lui devait, et leur disant par sa tenue, sa prestance, son port de tête haut et rengorgé, son sourire suffisant, son geste arrondi comme celui d'un comédien, « N'oubliez pas ma noblesse, ma fortune, ma générosité, mon esprit, ma bravoure, mes goûts artistiques. Je suis le prince Savine. » Mais en apercevant Roger, son accueil fut tout différent. Plein d'élan, d'émotion, d'attendrissement, il accourut à lui les deux mains tendues. « Oh, je savais bien qu'il n'y avait qu'à vous adresser un appel. Vous êtes un homme de cœur, un homme d'honneur. Vous êtes, de tous mes amis, celui pour qui je ressens le plus d'estime, le plus d'amitié. » « Que se passe-t-il donc ? Demanda Roger, surpris par ces éloges si extraordinaires dans la bouche de Savine, qui, habituellement et sous prétexte de franchise, s'appliquait à ne dire à ses amis que des choses désobligeantes. « Une chose inouïe, scandaleuse, le duc d'Arcala me provoque. »« Le duc d'Arcala n'est-il pas le frère aîné d'Inigo de San Esteban ?»« Précisément, et c'est à propos d'Inigo que vient cette provocation. Vous connaissez l'aventure d'Inigo ?»«
Non. »«
Vous ne lisez donc pas les journaux ?»«
Non. »
« Je comprends votre ignorance alors, car les journaux ont raconté l'aventure d'Inigo, et c'est cette indiscrétion qui est cause de tout ce qui arrive. Je vous demande un peu pourquoi y a-t-il des journaux ?»
C'était la première fois que Savine se posait cette question, car jusqu'à ce jour, tout en affectant en public un certain dédain pour les journalistes qui l'accablaient de compliments et de flagorneries en particulier, il avait trouvé que les journaux étaient très utiles les jours où il s'occupait de lui pour signaler ses offrandes aux souscriptions tapageuses, les seules auxquelles il donna, pour parler de ses chevaux, pour annoncer les achats d'objets d'art qu'il faisait dans les ventes célèbres, pour chanter sur tous les tons sa générosité, son goût, son luxe, enfin pour entretenir le public de sa personnalité glorieuse et faire du bruit autour de son nom.
« Mais cette aventure ?» demanda Roger. « Je vais vous la conter. Asseyez-vous, car nous en avons pour longtemps et je vous garde à déjeuner. » Cette invitation ne pouvait pas plaire à Roger, déjà en retard pour entrer à Saint-Prix. Il voulut s'en défendre, mais Savine se récria. « Comment vous, mon ami, vous voulez m'abandonner dans une pareille circonstance ? Vous ne me laisserez pas seul. D'ailleurs, j'ai besoin de vous. » Cette exclamation partit si spontanément, l'accent en fut si vibrant que Roger éprouva un mouvement de confusion qui lui fit monter le rouge au visage.
Aurait-il peur ?
Vous savez ce qu'on dit d'Inigo ? Commença Savine en faisant asseoir Roger en face de la cheminée et en se plaçant lui-même, de façon à ne pas recevoir la chaleur en plein visage. Vous savez ce qu'on raconte et les bruits qui courent le monde ? Sont-ils ou ne sont-ils pas fondés ? Ce n'est pas l'affaire. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils existent, et qu'en voyant cette figure imberbe, en écoutant cette voix de fossé, on est porté à les admettre. Ce qu'il y a de certain aussi, c'est qu'ils rendent les relations désagréables avec lui. On n'aime point à entendre dire « Tiens, on vous voit toujours avec Inigo ?» Et cela surtout quand on est poursuivi comme je l'étais par ce magot qui, positivement, m'accablait de son amitié. Pour comprendre ce qui va se passer, il faut que je vous dise que depuis longtemps, je voulais me débarrasser de lui.
Vous aviez peur qu'il vous fît un emprunt ?
Un peu. Et puis, il m'ennuyait, il me gênait. Mais il n'est pas facile de se débarrasser de quelqu'un qui ne veut rien comprendre, alors surtout que ce quelqu'un est de votre monde, lié à tous vos amis, et que, comme le comte San Esteban, il appartient à une grande famille. Enfin, j'avais toujours échoué avec lui. Les choses en étaient là lorsqu'il y a 15 jours, nous nous trouvons réunis chez Saint-Austreberte. On joue et Inigo me gagne 200 louis au baccarat. J'avais remarqué que lorsqu'il perdait, il me donnait un billet de 100 francs plié en 4. Lorsqu'il gagnait, il me présentait un billet de 1000 francs plié de la même manière pour que j'eusse à lui payer 50 louis. Cela m'avait paru assez étonnant, mais sans exciter autrement mon attention et encore moins mes soupçons. Est-ce que... Vous allez voir. Nous avions joué une partie de la nuit. Au moment de nous retirer, le duc de Charmont me prend dans un coin et me demande si j'ai remarqué la façon de jouer d'Inigo. Je lui dis ce que j'ai vu. Alors vous n'avez rien vu, me dit-il. Inigo est un habile escamoteur. Il y a longtemps que je me défiais de lui. Je l'ai surveillé, je l'ai vu opérer. Sa méthode est très simple. Elle consiste à substituer un billet de banque à l'autre et, comme il a les doigts longs, effilés, déliés, malgré les différences qui existent entre les billets, il pratique ce tour dans la perfection. Tout d'abord, je ne voulais pas croire. Mais Charmont insista et me donna sa parole d'honneur qu'il était sûr de ce qu'il affirmait. Puis il me demanda si je ne trouvais pas que l'occasion était bonne pour nous débarrasser enfin de San Esteban. Je répondis affirmativement. « Eh bien, « Alors, laissez-moi faire, dit-il. Je vais prévenir Despoudéian, Virieu, Poupardin. Nous partirons tous à pied et, en chemin, nous procéderons à l'exécution. Je commencerai. Si lâche qu'il soit, et il l'est terriblement, il faudra bien qu'il se fâche. » Les choses s'arrangèrent comme Charmon l'avait proposé. Nous partîmes tous les quatre, emmenant Inigo, qui avait voulu monter en voiture. « Non, dit Charmon, nous aurons à vous parler. » Il était entre 3 ou 4 heures du matin, c'est-à-dire que l'avenue des Champs-Élysées était entièrement déserte. Pas une voiture, pas un passant, la nuit belle. Nous marchons quelques pas. « Qu'avez-vous donc à me dire ? » demanda Inigo, qui, bien certainement, ne se doutait pas qu'il avait été vu trichant. De son air indifférent et nonchalant, Charmon se tourne vers lui et, le regardant en face, « Vous êtes donc féminin jusqu'au bout des doigts, » dit-il. Là-dessus, Inigo se trouble. Cependant, il tâche de se remettre. « Que signifie cela ? » dit-il la tête haute. « Ce mouvement m'exaspère. « Cela signifie que vous m'avez volé 200 louis, dis-je, et que vous allez me les rendre. » Roger, qui avait écouté sans bouger, laissa échapper un geste de surprise. « Oui, j'ai eu tort, » continua Savine, « mais la colère m'avait emporté. » Inigo voulut protester. « On vous a vu escamoter les billets, dis-je. »« Et qui m'a vu ? » cria Inigo. « Moi, » dit Charmon. Alors tout le monde tomba sur l'Espagnol, qui se défendit comme un diable, nous accusant de le calomnier. Ce fut un brouhaha de cris. Nous arrivâmes ainsi au rond-point, où Despoudéian devait nous quitter pour entrer chez lui. Avant qu'il partît, je voulus régler devant lui la question de la restitution, et je pris Inigo au collet en lui demandant mes 200 louis. Il se défendit de plus belle, disant qu'il ne pouvait pas rendre un argent qu'il avait loyalement gagné, que le restituer c'était reconnaître qu'il l'avait volé, ce qui était impossible. Encore une fois, l'exaspération m'entraîna. « Eh bien, lui dis-je, je vous les donne, mais avec, je vais vous donner une correction. » Je le saisis dans mes bras et, l'enlevant de terre, je le portai, malgré ses cris et ses efforts pour se débattre, jusqu'au bassin et le jetai dedans, tandis que Charmon, Poupardin, Virieux et Despoudéian se tordaient de rire. Le tapage avait attiré 2 sergents de ville. Tandis que l'un procédait au sauvetage de l'Espagnol, l'autre nous demandait nos noms. En les entendant, il voulut bien croire que ce qui venait de se passer était une simple plaisanterie, et après avoir mis Inigo dans un fiacre qui regagnait son dépôt, nous rentrâmes chez nous. Le lendemain, j'attendais la visite des témoins du comte de San Esteban. Je n'en reçus point et personne ne revit l'Espagnol. Je croyais l'affaire finie et même oubliée, malgré le tapage des journaux, lorsque hier, au club, un petit homme noir, chétif, vint à moi gravement et me dit « Je suis le duc d'Arcala, le frère du comte San Esteban. Je viens vous demander réparation de l'injure que vous avez faite à mon nom. » Là-dessus, je lui répondis que l'injure s'adressait à son frère et non à lui, que je n'avais pas l'honneur de le connaître et que, si je devais une réparation, c'était à son frère, non à lui. Mais, en quelques mots brefs, il persista dans son rôle de chef de famille. « J'arrive de Madrid exprès pour vous demander réparation et je ne quitterai point Paris que vous ne me l'ayez accordé. Je ne vous dois rien, je ne vous accorderai rien. » Il ne s'emporta pas, mais avec la même gravité, il me tendit une carte. « Si demain vos témoins ne se sont pas entendus avec les miens, dont voici les noms, lundi ce sera vous, prince, qui aurez à me demander raison de l'injure que je vous ferai. » Les choses en restèrent là, et aussitôt je passai chez vous où je vous écrivis le mot que vous avez trouvé. C'est à vous, mon ami, que je remets mon affaire, car malgré votre jeunesse, j'ai en vous une confiance que personne ne m'inspire au même point. Vous êtes calme, raisonnable. Vous savez vous posséder. Eux pousseraient tout de suite aux extrêmes, Sermizel parce qu'il est militaire, Montrevaux parce que tout doit être correct, Capel est impossible par son rang, Poupardin par son nom. Je n'ai confiance qu'en vous et qu'en vos travers, et en vous plus qu'en lui, c'est pour cela que je vous ai appelé et que je n'ai parlé de l'affaire à personne avant de vous l'avoir soumise. Après déjeuner, nous irons prendre mot travers et vous vous concerterez avec lui. » Ils passèrent dans la salle à manger. Seul de tous les jeunes gens de son groupe, le prince Savine avait une maison montée, un hôtel rue François Ier, dont il avait hérité et qu'il avait conservé, non comme un souvenir du parent qui le lui avait légué, mais parce que c'était une des demeures les plus somptueuses de Paris et que, par la décoration de ses appartements, copiée sur celle des grands appartements de Versailles, par le luxe de son ameublement, par la richesse de ses collections de tableaux, de statues, d'armes, d'objets d'art, par ses curiosités de toutes sortes, elle le servait puissamment dans son besoin de briller et de faire parler de lui, étant une enseigne, une réclame qui travaillait pour sa gloire, sans qu'il eût rien à faire personnellement, ce qui lui plaisait fort. De vastes dimensions, avec un plafond à voussure et une frise en bois sculptée au-dessous, cette salle à manger était une des pièces les plus luxueusement décorées de l'hôtel. Mais ce qui faisait son originalité et sa richesse, c'était la malachite, cette matière russe que le Savine qui avait fait construire l'hôtel avait eu le bon goût de prodiguer sans profusion, mais avec art. La cheminée monumentale était en malachite, les consoles, les dressoirs, les buffets, les candélabres étaient aussi en malachite ou avec appliques de malachite encadrées de bronze, qui donnait à toute la salle un ton d'un vert pâle, tout à fait doux et gai aux yeux. Deux couverts étaient mis sur une table carrée, placée à l'une des extrémités de la salle, près des fenêtres, et non vis-à-vis de la cheminée dans laquelle brûlait un beau feu. « J'espère que vous n'aurez pas froid, » demanda Savine d'un ton qui voulait dire. « Vous savez que vous ne devez pas avoir froid. »« Assurément non, » répondit Roger, habitué à l'air de la campagne. « Allons, tant mieux, nous n'aurons pas besoin de faire rapprocher la table du feu, ce qui me serait contraire. » Roger ne fit pas tout d'abord attention à cette parole. Ils étaient mis à table avec l'appétit d'un homme qui arrive de la campagne et qui s'est levé de bonne heure, et ils mangeaient sans distraction. Cependant, il remarqua bientôt que Savine mangeait peu et qu'il choisissait les mets dont il se servait après d'assez longues réflexions. Plusieurs fois même, avant de se décider, il consulta un petit carnet qu'il tira de sa poche. À un certain moment, on servit des côtelettes sur une purée, et Savine, qui était tout à son récit du bain d'Inigo qu'il recommençait, en prit une. Mais, prêt à la couper, il la regarda, et aussitôt il s'arrêta. « Qu'est-ce cela ? » demanda-t-il au domestique. « Côtelettes de chevreuil. »« Comment, du chevreuil ?» Et vivement, il atteignit son carnet, qu'il consulta de nouveau. « Enlevez-moi cela, » dit-il d'un ton dur, « et une autre fois, avant de me servir, tâchez de vous rappeler la note qui vous a été remise. » Roger le regarda tout surpris, puis se mettant à rire. « Que diable cherchez-vous donc dans ce livre ? » demanda-t-il. « Ce que je dois ou ne dois pas manger. Vous êtes souffrant ? Je veux me maintenir en bonne santé. » La vie de Paris m'avait fatigué, je me suis mise au régime qui m'a été prescrit par Harly et dont je me trouve bien. C'est Harly qui vous défend le chevreuil ? Le chevreuil et bien d'autres choses. Tenez, voulez-vous voir ? Cela peut vous être utile. Il tendit son carnet à Roger. Quatre pages d'un brissol souple et résistant étaient couvertes d'une écriture serrée, mais cependant parfaitement lisible. Sur la première et en tête, on lisait. « Conseils médicaux pour son Excellence, Monsieur le Prince Vladimir Savine. » Article 1er. Le prince devra manger lentement en mâchant avec soin ses aliments, qui se composeront surtout de viande rôtie, d'œufs, de légumes frais et de fruits. Les viandes que le prince doit préférer sont le bœuf, le mouton, le veau, la volaille de basse-cour, excepté le canard et le pigeon. Il ne mangera qu'exceptionnellement le blanc de la perdrix et de la caille. Les viandes dont il doit s'abstenir sont celles du faisan, du lièvre, du chevreuil, du sanglier, du porc. Il ne mangera ni charcuterie, ni anchois, ni olives, ni conserve, ni pâtisserie, ni fromage fermenté. Il peut prendre des glaces aux fruits, mais non aromatisées. Article 2. Le prince ne devra pas rester dans une salle où se trouveraient beaucoup de personnes. Il ne se mettra jamais en face d'un foyer. Après ses repas, il fera un peu d'exercice dans ses appartements, billard, visite aux objets d'art, etc. Roger sauta plusieurs articles et il arriva au dixième, ainsi conçu.
Le prince se souviendra des conseils donnés verbalement à propos des émotions sensuelles. Il devra éviter l'exercice intellectuel prolongé. Il se défendra contre toute émotion, de quelque nature qu'elle soit.
« Comment ? » s'écria Roger. « Vous vous conformez à cela ?»«
Mais certainement. »
« À 27 ans, fort et vigoureux comme vous l'êtes, assez pour porter un homme et le jeter dans un bassin,
je veux conserver cette vigueur. »
« Au prix de toutes ces privations ?»«
Au prix de toutes les privations. »
« Ne pas manger ceci ou cela, c'est très bien et de peu d'importance. Mais les émotions ?
Vous dites à une femme, ne me dis pas cela, ne me regarde pas de cette manière, ne me... tu vas me donner une émotion ?
Depuis que nous ne nous sommes vus, j'ai pris Balbine pour maîtresse et elle a très bien compris ses prescriptions qui, en somme, sont pleines de sagesse.
Eh bien, vous devez joliment vous amuser.
Roger se mit à rire franchement sans se contraindre. Puis, s'interrompant,
« Et les chagrins, c'est aussi une émotion. Vous êtes donc condamné à voir mourir ceux que vous aimez d'un œil sec et le cœur tranquille.
Et les duels ? Je ne vois pas d'article sur le duel.
Je vois bien que, quand vous montez à cheval, vous ne devez pas aller contre le vent.
Mais aller sur le pré est encore plus malsain et plus périlleux, il me semble.
Il n'y a pas d'article qui vous interdise le duel.
C'est là une source d'émotion, cependant.
Vous plaisantez ?
Ah, certes non. Moins que personne, j'ai le droit de plaisanter à ce sujet. Je vous jure que, quand j'ai eu l'année dernière le malheur de tuer ce pauvre Renou, j'ai éprouvé une terrible émotion. Quand j'ai senti mon épée s'enfoncer dans la chair et qu'en la retirant, j'ai vu une tache rouge sur la chemise, j'ai ressenti un coup au cœur, comme si l'épée de mon adversaire m'avait frappé là.
Et Roger s'arrêta, frissonnant à ce souvenir lugubre que le hasard avait évoqué.
Pour Savine, il se montra peu sensible à l'émotion qu'on pouvait éprouver à la vue d'un adversaire frappé ou tué, et il fit remarquer que, sans pousser les choses à l'extrême, on pouvait être justement troublé en se voyant menacé d'un duel, ce qui était son cas.
« Non seulement troublé, s'écria-t-il, mais exaspéré.
Assurément, je ne suis pas sensible à la peur et vous me connaissez assez, mon cher Roger, pour ne pas douter de mon courage si je vous avoue franchement que ce duel me tourmente fort. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un homme dans ma position expose sa vie. Que cet Espagnol, un crève-la-faim, tout duc qu'il est, fasse le sacrifice de sa peau, ça se comprend. Mais moi, je vous le demande, est-ce que les risques sont égaux ? Qu'a-t-il à perdre, lui ?
Il leva un œil attendri, presque larmoyant, sur les dressoirs chargés d'une merveilleuse argenterie.
« Il a 45 ans au moins, j'en ai 27. Il est petit, chétif, moi je suis solide. C'est un avorton, je suis un homme. »
Il s'en fallut de peu qu'il dit « je suis un bel homme ».
Mais la façon dont il promena ses yeux sur toute sa personne fut plus éloquente que ne l'aurait été cet adjectif.
Il reprit, en s'animant de plus en plus.
« Je soutiens que, dans ces conditions, le duel est une iniquité, une monstruosité. Si le duc d'Arcala était dans ma situation, il n'aurait pas l'idée de venir me provoquer. Il penserait à ce qu'il risque.
Belle affaire de montrer de la témérité quand on n'a rien.
Si tous ces fumeurs de cigarettes économiques ne crevaient pas la faim, soyez sûr qu'ils ne feraient pas sonner si haut leur honneur à propos de tout.
« Moi aussi, je tiens à l'honneur.
Mais je ne tiens pas qu'à l'honneur en ce monde.
Aussi, mon cher Roger, mon bon Roger, je compte sur vous pour mener cette affaire avec dignité, mais aussi avec sagesse, avec prudence.
Je ne refuse pas de me battre, non, certainement, je ne refuse pas.
Seulement, je ne consentirai à me battre que si ce duel ne peut pas être évité.
Je n'ai rien fait, rien dit au duc d'Arcala. Je ne lui dois rien. »
Cela est bien simple et juste.
Si je lui devais quelque chose, je serais prêt à payer. Mais que je paie sans devoir, ce serait bête.
C'est en ces termes que je vous remets mon affaire, mon bon Roger, plein de confiance en vous.
On est fort pour parler, pour faire entendre la voix de la raison quand on a eu le malheur de tuer son adversaire. C'est cette voix que je vous demande d'élever.
Ah, si j'avais eu cette chance!
Roger ne releva point cette étrange contradiction qui transformait en chance pour Savine ce qui avait été malheur pour lui.
« L'occasion se présente, dit-il. Et soyez certain que je ne la laisserai point perdre si elle m'est favorable. Que la poitrine du duc d'Arcala se trouve devant mon épée et je la crèverai, je vous le jure, de belle façon. Au moins, ce sera fini à jamais. Je ne pourrai plus me battre, jamais, jamais. »
Ce fut avec une violence sauvage qu'il jeta ces quelques mots. Ses lèvres frémissantes et relevées montraient ses dents pointues, ses yeux s'étaient injectés de sang. Il se remit assez rapidement cependant. « Mais c'est là une extrémité à laquelle il faut tâcher de ne pas arriver, dit-il, et c'est sur vous que je compte pour cela, mon ami. Vous modérerez mot travers s'il se laissait entraîner. Je n'ai pas en lui la confiance que j'ai en vous. Rien que pour la gloriole d'être témoin dans un beau duel, car un combat entre le duc d'Arcala et le prince Savine ne peut être qu'un duel fameux, il serait homme à pousser à une rencontre alors même qu'on pourrait l'éviter. Tandis que vous, mon ami, vous n'êtes point de ce caractère. Je suis sûr que toutes les concessions possibles, vous les accorderez avec fermeté. » Roger avait cru que, le déjeuner terminé, il se rendrait chez Mautravers. Mais il n'en fut rien. « Si vous voulez, dit Savine en se levant de table, nous allons nous promener dans les galeries. Il n'y a rien de meilleur pour la digestion que de tourner autour de quelques statues. On s'assied, on se relève, on marche, on cause, c'est un très bon exercice. » Et Mautravers ? Je lui ai fait demander de vouloir bien se trouver au club entre 2 et 3 heures. Nous avons encore du temps devant nous. » Et, marchant lentement, à petits pas, tout en fumant leurs cigares à travers les salons, les galeries, la bibliothèque, ils tournèrent, selon l'expression de Savine, autour des statues, des panoplies, des vitrines. Ils passèrent devant les tableaux, les estampes de cette collection célèbre dans le monde entier et que tant d'amateurs, d'artistes, de critiques, de gens de goût eussent été heureux d'admirer religieusement si on avait bien voulu leur faire la grâce de leur ouvrir les portes de cet hôtel soigneusement fermé, grâce qui ne s'accordait qu'exceptionnellement parce que les visites dérangeaient les exercices hygiéniques du propriétaire et aussi parce que plus ces visites étaient rares, plus elles étaient précieuses, et par là, plus elles servaient la gloire du prince. Ce dont Savine parlait le plus volontiers, en tournant autour de ses statues ou en passant devant ses tableaux, c'était du prix qu'ils avaient coûté. Sur ce point, ses souvenirs étaient d'une précision vraiment extraordinaire, et il n'y avait pas un bronze, pas un émail, pas un vase de sa collection dont il ne sût exactement le prix.
« Quel excellent marchand vous auriez fait !» dit Roger.
« N'est-ce pas ? » répliqua Savine, qui voulut bien prendre cette parole pour un compliment, et s'en montra satisfait. De temps en temps, Savine s'arrêtait devant une œuvre de grande valeur, et poussant un soupir, « Vous croyez, disait-il, qu'on peut s'habituer à l'idée de laisser cela à des héritiers ? Non, mon cher, non. Décidément, ce duc d'Arcala est un coquin comme son frère. L'un m'a volé mon argent, l'autre veut me voler ma vie. » Ils trouvèrent Mautravers qui les attendait au club. Au courant de ce qui s'était passé la veille entre le duc d'Arcala et Savine, ils savaient pourquoi celui-ci lui avait donné rendez-vous. Il n'y avait plus qu'à se mettre en rapport avec les témoins du duc d'Arcala. Mais pendant cette conférence, Savine ne voulut pas rester au club. « Vous me retrouverez chez Balbine, dit-il. « Seulement, vous aurez soin de ne parler de rien devant elle. Il n'y a pas besoin de l'inquiéter, la pauvre fille. » « Voilà un garçon, dit Mautravers à Roger, lorsque Savine les eut quittés, qui nous fera quelque farce sur le terrain. Il se meurt de peur, à ce point qu'il n'ose pas rester seul. Il n'y a qu'à ne pas aller sur le terrain. Oui, mais cela sera-t-il possible ? On m'a dit que ce duc d'Arcala était un homme plein de résolution, et ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'il n'a jamais tenu un fleuret, m'a assuré l'attaché militaire à l'ambassade, qui le connaît parfaitement. C'est un homme sombre, chagrin, qui vit renfermé dans une sorte de tour, où il passe sa vie couché sur des coussins et fumant. Pourquoi n'avez-vous pas dit cela à Savine ? Vous l'auriez rassuré s'il a peur comme vous le pensez.
Je vous dis qu'il en meurt.
Mais s'il avait su que le duc d'Arcala n'a jamais tenu un fleuret en main, il aurait exigé de lui des excuses et nous aurait imposé une mission impossible. D'ailleurs, je me réserve cela pour le moment où je le verrai tout à fait abattu. Ce qui ne peut manquer d'arriver, ça le relèvera. Mais vous, parlons donc un peu de vous, cher ami. Vous voilà retrouvé. » Roger répliqua sèchement qu'il n'avait point été perdu et Mautravers dut s'arrêter dans ses questions, ce qu'il fit d'ailleurs très facilement, en homme qui ne tient pas à apprendre ce qu'il demande, soit parce que cela n'a pas d'intérêt pour lui, soit parce qu'il sait à l'avance ce qu'on peut lui dire. Les témoins du duc d'Arcala n'avaient été chargés par leur ami que de traiter deux points avec les témoins du prince Savine, l'arme, le lieu. Pour tout le reste, ils refusèrent d'entrer en explication. Il n'y avait point de concessions à discuter. Le duc n'accepterait même pas des excuses publiques. Pour l'arme, il ne se présenta point de difficulté. L'épée fut choisie d'un commun accord. Mais pour le lieu, Naurouz et Mautravers durent en référer à Savine. Quant au duc d'Arcala, il déclarait à l'avance qu'il n'avait point de préférence pour tel ou tel endroit et que le moins éloigné serait pour lui le meilleur. Dans l'état d'agitation nerveuse où il se trouvait, Savine n'avait pas su se contenir et Balbine, qui avait vaguement entendu parler du duc d'Arcala, lui avait arraché l'aveu du duel dont il était menacé. Alors, il avait eu à supporter une scène déchirante qui l'avait profondément troublé. Car si Balbine était une actrice détestable au théâtre, elle était chez elle une comédienne de grand talent, surtout pour le pathétique. Au bout d'un quart d'heure, ils pleuraient dans les bras l'un de l'autre. Puis, après ce moment de faiblesse donné à la nature humaine, elle l'avait, par des paroles sages autant que viriles, relevé. Que deviendrait-elle si elle le perdait ? Il fallait penser à l'avenir. Il fallait faire œuvre de reconnaissance et de tendresse. Il fallait qu'il la mît généreusement en situation de pouvoir le pleurer, retirée du monde, n'ayant plus d'autre soin en cette vie que d'aller prier sur son tombeau, qu'elle entretiendrait de fleurs, pieusement, jusqu'au jour où elle le rejoindrait, ce qui, bien certainement, ne tarderait pas longtemps. Et dans un élan de générosité succédant brusquement à un accès de défaillance, il avait fini par écrire 4 ou 5 lignes de testament qui léguait à Mademoiselle Balbine Motu une somme de 1 200 000 francs. Balbine venait de serrer ce testament lorsque Roger et Mautravers arrivèrent. « N'est-ce pas ? » s'écria Balbine en courant à eux. « Qu'il ne se battra pas ? Vous ne le laisserez pas se battre ! Un duel, cela s'arrange ! Parlez, mais parlez donc ! Vous voyez bien que vous me faites mourir d'angoisse !» En voyant que Savine avait parlé, ils racontèrent ce qui s'était passé, n'ayant point à garder une discrétion qu'ils n'avaient point eue. Savine fut atterré. Évidemment, il avait cru que Roger arrangerait l'affaire. Comment, il ne l'avait pas imaginé, s'en tenant à une espérance vague, se disant qu'en sa faveur devaient s'accomplir des miracles. Lorsqu'il revint à lui, son premier mouvement fut la colère, la fureur contre celui qu'il accusait d'avoir trompé son espérance. « Vous n'avez donc pas, s'écria-t-il, représenté au... » Mautravers lui coupa nettement la parole. « Nous n'avons eu rien à représenter, » dit-il de sa voix brève et avec son geste cassant. « Nous avons eu à écouter. » De nouveau, il expliqua que les témoins du duc d'Arcala n'avaient admis la discussion que pour l'arme et le lieu. C'était donc pour décider le lieu, le jour et l'heure, qu'il revenait à lui. « Le plus près possible de Paris, » dit Savine, ramené au sujet et forcé de répondre. « Dolo m'a autrefois proposé les tirées de Saint-Germain si j'avais jamais un duel. Je vais m'entendre avec lui. Nous choisirons l'endroit le plus rapproché de la ville parce que le transport est toujours douloureux, souvent dangereux pour un blessé. »«
Tu le tueras !» s'écria Balbine.
« Quand ? » demanda Mautravers.
« Demain, n'est-ce pas ?»«
Non, pas demain !» s'écria vivement Savine. « Le mieux est d'en finir au plus vite, » dit Mautravers impatienté. En finir, le mot était cruel pour Savine. Roger et Mautravers l'abandonnèrent aux consolations de Balbine, très inquiets pour la journée du mardi. On s'était mis d'accord pour prendre le train de 8h35 du matin.
À 8 heures, le duc de Naurouze, qui avait été passer la journée et la nuit du lundi à Saint-Prix, arriva à la gare Saint-Lazare. Dans la salle des pas perdus, il ne trouva ni Savine, ni Mautravers, ni les témoins du duc d'Arcala. Mais il reconnut le duc lui-même, bien que ne l'ayant jamais vu jusqu'à ce jour, qui allait d'un bout à l'autre de la salle, lentement, à pas comptés, boutonné dans un pardessus. C'était bien le petit homme noir et chétif dont Savine avait parlé. Mais, en s'en tenant là, le portrait tracé n'était ni exact ni complet, l'essentiel était oublié. Deux yeux ardents, brûlants, qui lançaient des flammes et qui révélaient une énergie d'une intensité extraordinaire. Si le corps était faible, le caractère assurément était puissant. Ce que Savine avait oublié aussi, c'était les manières, le port de tête, la démarche, le regard, les plus nobles que jamais Roger eût vus, avec cela de remarquable qu'ils étaient pleins d'aisance et de naturel. Successivement arrivèrent les témoins du duc, Savine et Mautravers ensemble. Puis Harly, accompagné d'un personnage de haute taille, qui, en tout, avait l'air d'un médecin, et à qui Harly témoignait une respectueuse déférence. En apercevant le duc de Naurouze, Harly vint à lui vivement les mains tendues. « Vous voilà ! Que je suis heureux de vous revoir enfin !» Tout en montant à la salle d'attente, ils échangèrent quelques paroles affectueuses, mais sans que Harly se permît la plus légère question, ni rien qui ressemblât à une insinuation curieuse. Ce fut au contraire Roger qui le questionna, intrigué de voir le personnage qui avait l'air d'un médecin causant librement, presque joyeusement, avec Mautravers. Harly ralentit le pas, et lorsqu'ils furent assez éloignés pour qu'on ne pût pas les entendre, il répondit « Carbonneau, le grand chirurgien, le prince a voulu à toute force que je l'amène. Carbonneau ne voulait pas, ça a été toute une affaire. Avez-vous vu Savine ce matin ?» Sans répondre, Harly regarda Roger. « Il me fait peur, » dit celui-ci. Alors Harly se décida. « Moi aussi. Il faudrait le distraire, l'empêcher de penser. Appliquons-nous à cela dans le wagon. » Ils s'y appliquèrent en effet, s'aidant réciproquement. Mais malgré leurs efforts pour empêcher le prince de s'absorber dans ses réflexions, il y avait des moments où il restait immobile, affaissé, les bras ballants, les yeux sans regard, la face blême, comme s'il était frappé de paralysie. Dans d'autres, au contraire, il se mettait à parler fiévreusement, le plus souvent interrogeant Carbonneau et Harly. Ce fut ainsi qu'il leur demanda si, quand on se battait, on ne devait pas toujours être à jeun. Il avait entendu dire que, quand l'estomac était plein et qu'il recevait une blessure, les aliments pouvaient s'épancher et amener la mort d'une manière sûre et rapide. Cela était effrayant. Était-ce vrai ? On arriva à Saint-Germain. Des voitures commandées à l'avance les attendaient devant la porte de la gare et un brigadier des gardes se tenait là pour se mettre aux ordres du prince Savine et le conduire à l'endroit choisi. On partit. Le duc d'Arcala et ses témoins dans une voiture, les médecins dans une autre, Savine avec Roger et Mautravers dans la troisième, sur le siège de laquelle monta le brigadier. Ce fut celle-là qui prit les devants par la route de Poissy, et pour regarder ce défilé, les passants se rangèrent le long des maisons, échangeant leurs observations et se disant que, si ces gens qui s'allaient battre avaient pour les conduire un garde qui, au contraire, aurait dû les arrêter, il fallait qu'ils fussent de puissants personnages. Qui ? La ville fut en émoi. La matinée était douce et de chaque côté de la route qu'ils suivaient, sous les hauts arbres, dans les branches des taillis que çà et là verdissait une tige volubile de chèvrefeuille, on entendait les oiseaux chanter. De place en place, dans l'herbe tendre des fossés et sur les talus veloutés, éclatait une petite fleur jaune de primevère. Mais Savine n'avait point d'oreille pour le chant des oiseaux, pas plus qu'il n'avait d'yeux pour les fleurs du chemin ou de narines pour les odeurs printanières de la forêt. Se penchant de côté, il regardait devant la voiture, au loin, ou bien, baissant la tête, il paraissait étudier la route elle-même. « C'est bien loin, » dit-il à mi-voix, « et la route est pavée. » Après ce qu'il avait dit, lorsqu'il avait été question de choisir le lieu de la rencontre, ses paroles n'avaient pas besoin d'être expliquées. Elles trahissaient la pensée qu'il suivait. « Si je suis blessé, Il y aura bien de la route à faire et le pavé sera bien dur. »
Les voitures abandonnèrent la grande route et prirent un chemin à travers bois, dont l'un des côtés était bordé d'une palissade enclosant une réserve. À une courte distance, elles s'arrêtèrent devant une barrière que le garde, sautant à terre, ouvrit avec une clé. Sans un mot, le képi à la main, il fit passer les 8 personnes qu'il avait amenées. Puis, ayant refermé la barrière, il s'adossa contre, restant là pour attendre, mais ne devant pas regarder ce qui allait se passer. Une large allée partait de cette barrière, s'enfonçant droit sous bois. Ils la prirent et la suivirent pendant quelques instants. « N'allons pas loin, » dit Savine, qui regarda derrière lui pour mesurer la distance parcourue. Mais Mautravers et Roger voulurent une place plus nette, et ce fut seulement quand ils arrivèrent à un terrain résistant, uni, sans pierres et sans herbes, qu'ils s'arrêtèrent. Le duc d'Arcala et ses témoins, qui les suivaient de près, les rejoignirent. Alors Roger, qui n'avait presque pas quitté Savine des yeux et qui avait vu sa pâleur augmenter en même temps qu'il ouvrait et fermait frénétiquement la bouche, voulut faire une dernière tentative de conciliation et il s'avança vers le duc d'Arcala. Mais au premier mot, celui-ci l'arrêta. « Je ne suis pas venu de Madrid chercher des excuses à Paris, mais une réparation. » Bientôt, les deux adversaires furent en face l'un de l'autre, l'épée à la main. Pour qui connaissait l'escrime, il était évident que ce qu'on avait dit du duc d'Arcala était vrai. Jamais il n'avait tenu une épée, et cependant, son attitude était pleine d'assurance et de résolution. Quel contraste ne faisait-elle pas avec celle du prince Savine ? Le petit homme chétif était superbe, le bel homme pitoyable. Les épées avaient été engagées. En dehors de toute règle, le duc d'Arcala avait fondu sur son adversaire, et celui-ci, déconcerté par cette manière insolite, troublé par le regard que le duc attachait sur lui, paralysé par son émotion, avait rompu pour prendre le temps de se remettre et de tâter le fer du duc. Mais il n'eut pas ce temps. Une nouvelle attaque eut lieu, et il ne put, par une prompte riposte, que faire dévier l'épée du duc qui lui passa au-dessus de l'épaule.
« Je suis blessé! Je suis blessé! Je suis blessé !»
Cette exclamation, 3 fois répétée, ne l'avait pas été de la même manière ni sur le même ton. La première, jetée tout bas d'une voix rauque, était un cri de terreur. La deuxième, une parole de raisonnement. La troisième, un cri de joie qui voulait dire clairement « Ma blessure qui n'est pas bien grave, l'est assez cependant pour que nous en restions là. » Le duc d'Arcala avait abaissé son épée, tandis que les médecins s'empressaient autour de Savine. L'épaule mise à nu montra une légère éraflure qui avait à peine écorché la peau.
« Ce n'est rien !» dit Carbonneau.
Mais Arline ne fut pas de cet avis et se permit de contredire son illustre maître. Une discussion s'engagea. Il fut question de clavicule, de sous-scapulaire, d'acromion, de petit rond, de grand rond, de triceps, de tubérosité de l'humérus, d'apophyse coracoïde, de veines céphaliques, et Carbonneau, qui avait commencé par répéter plusieurs fois « Ce n'est rien, ce n'est rien !» finit par dire que la gêne des mouvements était possible, à la rigueur. « Messieurs, » dit vivement Harley, « le duel ne peut pas continuer. » Et tout de suite, il procéda au pansement. Pendant ce temps, le duc d'Arcala se rhabilla. Puis, après avoir salué les médecins ainsi que Mautravers et Roger, il passa, suivi de ses témoins, devant Savine, en le regardant avec l'expression d'un suprême dédain. Savine n'eut pas besoin qu'on le portât à sa voiture, il put marcher lentement, le bras en écharpe. Mais, en montant sur le marchepied, il laissa échapper un léger cri étouffé. Sa blessure le faisait souffrir. Cependant, il ne voulut pas rentrer à Paris tout de suite, et tandis que Carbonneau reprenait le train, il emmena Harley et ses témoins au pavillon d'Henri IV. Il essaya, il est vrai, de retenir Carbonneau, mais celui-ci ne voulut pas rester. « Vous avez le docteur Harley, dit-il, il vous suffira amplement. » Jamais blessé ne fut plus gai, jamais déjeuner ne fut plus largement, plus dispendieusement ordonné, ce qui était rare quand Savine commandait. Tout d'abord, il voulut manger à peine à cause de sa blessure.
Mais peu à peu, il se laissa aller, trouvant sans doute que c'était niaiserie de laisser ses amis manger ce qu'ils payaient. Puis, enhardi par le vin, il expliqua comment il avait pu se laisser blesser par cet avorton. « Voilà ce que c'est que d'écouter la pitié. Je voulais choisir une bonne place pour lui donner un joli coup d'épée, et c'est moi qui en ai reçu un vilain. C'est une leçon. » En arrivant à Paris, dans la gare, ils trouvèrent Balbine qui attendait là depuis 4 heures. En les apercevant, elle poussa un cri. « C'est mon bras !» dit Savine qui portait son bras comme s'il eût été fracassé. « La pauvre fille !» Et pendant qu'il allait à elle vivement, Roger fit remarquer à Mautravers que pour une simple blessure, Balbine se montrait bien profondément désolée. « Son testament qu'elle pleure !» Savine voulut que ses témoins et Harly le reconduisissent jusque chez lui. Il souffrait, il se plaignait, il gémissait. Il voulut aussi que Harly lui fît un nouveau pansement et lui promit de venir le voir 3 fois par jour. « Demain, vous me direz si je puis recevoir. »« Vous pouvez recevoir aujourd'hui. »« Oh non, demain ou après-demain. » Il pria Harly de faire disposer un registre pour que les visiteurs puissent s'inscrire.